Bienvenue à toutes et à tous sur le 90.5 FM Globule Radio et de retour chez Paolo ce soir. C'est au bout de la rue piétonne à Chamonix, rue Ravanel-le-Rouge. Vous pouvez passer nous voir, on est bien reçu ici par Franca et Paolo. Merci beaucoup. Vous pouvez aussi nous regarder pour ceux qui sont sur Facebook en direct, donc de notre page Facebook Globule Radio Chamonix. Et pour cette avant-dernière de l'été, et oui, c'est encore l'été, on a une belle journée, la preuve en est, avec ce beau soleil encore qui brille dans la vallée avant qu'il ne disparaisse derrière nos montagnes. Et on a voulu mettre la culture à l'honneur pour ce jeudi. Oui, vous me direz, il n'y en a pas assez à Chamonix, c'est toujours patrimoine et montagne. Eh bien, détrompez-vous, il se passe pas mal de choses ici. Dans un premier temps, et il y a une magnifique programmation culturelle cette année. On va y revenir dans cette émission, programmation culturelle à Chamonix. Il y a même une nouvelle galerie d'art contemporain et de street art, la Méta Galerie à Chamonix Sud. On reçoit d'ailleurs sa cofondatrice dans 5 minutes sur Globule Radio. Et puis on parlera aussi aujourd'hui de photographie et changement climatique. Et oui, on peut photographier le changement climatique d'une certaine manière, on verra ça tout à l'heure. Et on fera aussi un tour à l'usine Timon où il y a une magnifique expo sur leur matériel. Ok, je vous l'accorde, on retourne avec Simon dans le patrimoine et le ski, mais ça reste de la culture et surtout de la culture locale. Et avec moi aujourd'hui pour recevoir tous ces invités, eh bien, j'ai l'honneur de saluer Kevin. Salut Kevin.
Eh ben bonjour, bonjour à tous. Donc avant moi aussi j'aimerais saluer donc toute l'équipe, Kirstine à la régie et Kim à la vidéo, et merci encore une fois à l'équipe de Paolo qui nous accepte ce soir sur leur terrasse. On est aussi en direct donc sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à interagir avec nous pour par exemple dire que je suis beau ou au contraire que Caroline... Pardon, excusez-moi.
Ouais, voilà, donc, on s'arrête.
Comme tu disais, Caroline, on parle culture ce soir.
Eh oui, comme je disais, tous nos invités voilà, ont un lien avec la culture ici dans la vallée. Donc dans 3 minutes, Cassilia Fauré qui vient d'ouvrir la Métagalerie à Cham Sud. C'est juste à côté de la pharmacie, si vous n'avez pas encore vu le local. À 17h30, c'est Fred Bernard, vous le connaissez certainement, il est guide. Il a toujours le sourire et souvent l'appareil à la main. Il est aussi photographe et il expose au Café Galerie de l'Aiguille. Ça parle de Chamonix en 2050. Et puis à 18h, on l'a attendu longtemps, mais on a réussi à le faire passer de l'autre côté, le valeur saint Thierry Bergerand qui fait du design de marque et qui est très bon scénographe aussi à ses heures perdues. C'est lui qui a réalisé l'exposition à l'usine Simon, l'exposition Héritage. Et puis à 18h30, c'est Marie-Solène Lafont du service culturel de Chamonix. Elle vient nous détailler le programme de la saison culturelle de Cham et surtout de la nouvelle salle de spectacle qui est en train de se faire construire et qui normalement ouvrira ses portes en décembre. Kevin.
Eh ben, avant de commencer, on peut remercier nos partenaires Europcar qui nous ont prêté un véhicule tout l'été, merci à eux. Et puis le département de la Haute-Savoie qui nous soutient aussi dans cette tournée des terrasses.
Et comme chaque rencard, c'est notre habitude, on finira avec un peu de musique ce soir. À 19h, c'est le concert d'Olivier Rouquier, interprète, musicien de la vallée, que vous avez déjà certainement entendu. Lui et donc sa guitare, puisqu'il ne se déplace jamais sans sa guitare, c'est un peu notre Renaud de Chamonix, on va dire. Mais avant de recevoir nos premiers invités, nous, on part en Australie avec la chanteuse d'origine italienne, parce qu'on est chez Paolo, et voilà, la programmation musicale, ça nous fait penser à l'Italie, c'est Gabriella Silmi. Kilmi.
Yeah.
Vous êtes sur Globule Radio 90.5 FM. On est en direct de chez Paolo. Et à 19h, venez écouter Olivier Rouquier, musicien, compositeur et interprète de La Vallée, qui viendra jouer de sa guitare sur la terrasse. En attendant, on accueille notre première invitée.
Cassilia Fauré, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venue. Vous avez fait le déplacement. Bon, vous n'êtes pas très loin, mais quand même merci de venir sur Globule Radio. Alors, pour celles et ceux qui nous écoutent ou nous regardent aussi sur Facebook, vous avez peut-être vu les affiches collées un peu partout dans la ville de Chamonix de la Méta Galerie, nouvelle galerie d'art à Chamonix. Dessus, il y a une œuvre aux couleurs vives, orange, verte. C'est assez secret comme affiche, vous n'y racontez pas grand-chose. Pour laisser, j'imagine, planer un peu le mystère sur ce nouveau lieu chamoniard, qui est en réalité donc une galerie de street art et d'art contemporain. Alors dites-nous, Cassilia, quel artiste on voit pour commencer déjà sur cette affiche ?
Alors sur l'affiche en particulier, ouais, on retrouve donc une œuvre de Cause qui est également très connue pour ses figurines bien sûr, mais qui aussi fait de la peinture. Et donc nous avons la chance d'avoir une de ses sérigraphies à la galerie qui fait donc l'image du prospectus que vous avez pu voir effectivement.
Et donc cette galerie qui se trouve à Chamonix Sud, pour les gens qui ne sont pas tombés dessus, c'est entre Pôle emploi, parce que les gens savent Pôle emploi à Chamonix, et la pharmacie de Chamonix Sud, juste en face de l'Aiguille du Midi.
Exactement.
La Métal Galerie, donc vous l'avez ouverte tout récemment, c'est un peu passé au milieu de l'été, c'était quand cette
ouverture ? Tout à fait, oui, nous avons ouvert courant août donc, de cette année, donc tout récemment, là on a fini l'installation, on est bien là et on a surtout les premières très belles œuvres de nos artistes qui sont bien mis en valeur dans notre galerie, donc on est ravis d'être là.
Alors je confirme, je suis allée tout à l'heure jeter un œil à toutes ces belles œuvres, il y en a pas mal hein, dans ce petit espace qui n'est pas très grand, mais il y a de quoi mettre. Qu'est-ce qu'on peut y voir pour les gens qui ne sont pas forcément passés devant ou qui ne vous suivent pas encore sur les réseaux sociaux ? Qu'est-ce qu'on vient voir chez vous ?
Donc oui, effectivement, on a quand même un espace qui permet de bien mettre en valeur le travail de nos artistes. Une très belle vitrine aussi qui permet d'apercevoir déjà de l'extérieur beaucoup de choses et bien sûr davantage à l'intérieur. Et donc des artistes, comme vous l'avez dit, surtout autour du courant street art et d'art contemporain. Donc on va avoir des grands noms comme John Wan ou Brusque qui sont très reconnus dans le milieu et même par le plus grand nombre. On a aussi la chance d'exposer des œuvres de Cédric Bouteiller, donc qui travaille l'époxy sur aluminium, enfin beaucoup de techniques chez cet artiste. Artiste américain Sin, nous avons aussi des lithos bien sûr d'Aubé qu'on ne présente plus, gros artistes américains aux origines du street art. Des artistes aussi émergents comme Baïkia et Hippolyte Réninger, puisqu'on a aussi cette vocation à faire découvrir des nouveaux talents.
Et donc au-delà des noms, pour qu'on comprenne un peu ce qu'il y a, il y a des sculptures chez vous, il y a des peintures. Et ça ressemble à quoi ? C'est du street art, donc souvent c'est quand même assez flashy. Qu'est-ce qu'on voit comme œuvre ? Il y a du graphe, il y a quoi ? Est-ce que dans l'imaginaire des gens, c'est vrai quand on parle street art, on pense tout de suite à la rue, au graphe. Est-ce qu'on retrouve ça chez vous ?
Alors oui, effectivement, on a souvent une image assez préconçue du street art qui n'est pas fausse, puisqu'on peut retrouver cette partie-là, mais finalement, c'est un mouvement qui est beaucoup plus large, avec des univers et des techniques très, très variées, très différentes. On a aussi effectivement un petit peu de sculpture, comme vous le disiez. On va avoir notamment des œuvres de Karl Lagasse, qui est assez connu également pour son travail autour des dollars, notamment. Et après, comme vous le disiez, on va avoir des techniques qui sont très variées chez les artistes, donc qui ont évolué effectivement des murs à la toile et qui ont su s'adapter. Et donc c'est vrai qu'on retrouve souvent des techniques qui sont assez mixtes. Donc ce que je disais chez Cédric Bouteiller, on va avoir aussi bien de la résine, du collage, de la peinture donc sur aluminium. Chez Brusque, on va avoir du pinceau, du Posca, un petit peu d'acrylique. Des choses assez variées chez...
Et assez travaillées. Oui.
Exactement. Donc c'est vrai que ce sont des artistes où finalement on peut énormément parler de technique, mais on ne sera pas sur une seule à la fois. Et chaque artiste après construit vraiment son univers sur une palette très différente.
Et comment on obtient le label de street art en fait ? Quelle est la ligne à franchir pour devenir street artiste et non pas
simplement. C'est vrai artiste. Pour les gens qui, effectivement, Kevin, qui n'ont pas été à la galerie, il y a des peintures qu'on peut voir avec des portraits. Donc là, on est clairement habitué à cet art-là. Et il y a des œuvres qui sont un peu plus déroutantes. Alors comment on est street art si on fait de la peinture ou...
Tout à fait, comme le soulignait votre question précédente, on a des styles très variés. On va avoir aussi dans cet imaginaire du street art qu'on connaît tous des choses un petit peu plus du lettrage comme Coptou ou Signe qui sont des artistes américains très connus. Après, pour rentrer vraiment dans ce cadre de street art, c'est tout simplement avoir commencé dans les rues des villes à taguer, si on peut dire ce terme-là. C'est aussi pour ça que nous, on est centré sur le street art, mais qu'on se dit galerie d'art urbain et contemporain, parce qu'on peut avoir des artistes qui sont un petit peu entre les deux aussi. Cédric Bouteilla s'influence par exemple du street art, mais il se définit lui comme un artiste de la pop culture. On a effectivement, comme vous le soulignez, des artistes comme Baikia, qui a fait des collages dans la rue, mais qui travaille maintenant davantage le portrait à l'acrylique. Donc c'est vrai que quand on voit ces portraits-ci, on ne pense pas forcément à la technique du street art, mais pour autant, il y avait cette démarche à l'origine. Et donc, on a ce mélange de démarches, d'inspiration et de techniques qui créent des univers très variés.
Et donc, on a eu plein de noms d'artistes, des connus, moins reconnus. Ça dépend un peu des publics, pour ceux et celles qui nous écoutent. Ça dépend si on connaît un peu ces artistes et ce milieu-là. Ce sont quel genre d'artistes ? C'est des artistes, en entendant les noms, qui viennent du monde entier, en fait, et qui se retrouvent ici, à Chamonix.
Exactement. On a la chance d'exposer des artistes internationaux, aussi bien américains que français. Et bien sûr, notre rôle en s'installant à Chamonix, c'est de pouvoir aussi être acteur de la vie locale. Donc là, on s'installe tout juste, mais le but, ce sera de participer bien sûr à des événements, de faire connaître aussi des artistes de la région, oui.
Parce qu'il y a du street art ici dans la vallée de Chamonix ?
Oui, il y a beaucoup d'artistes dans la vallée de Chamonix et plus particulièrement du street art, oui.
Mais justement, on va en parler. Une dernière question pour le nom de la galerie, Méta Galerie, ça fait référence à quoi en fait, Méta ?
Alors Méta, ça vient du grec. On a toute cette relation au monde de l'invisible, du visible, de l'au-delà, de l'ombre. Donc effectivement, les artistes que nous exposons étaient dans l'ombre auparavant. Le street art, il faut savoir que ça n'a pas été reconnu tout de suite. C'est souvent des artistes qui ont eu des débuts très compliqués. Donc il y a cette mise en avant là de ce courant qui maintenant est heureusement reconnu et visible et que nous, on a vocation de véritablement mettre en avant. Parce que c'est quand même pas forcément encore beaucoup le cas finalement.
On va en parler justement après un peu de musique sur ce street art qui est passé, si vous voulez, les galeries ont ouvert les portes au street art et ils sont aujourd'hui exposés, vendus à des millions d'euros, pour milliards d'euros pour certains. Donc Cassilia Fauré, on le répète, vous êtes directrice de la Méta Galerie à Chamonix-Sud qui vient d'ouvrir tout juste cet été. Restez avec nous, ceux qui nous écoutent, on revient tout de suite après Peur des filles de l'Impératrice.
Thank you.
Retour sur le 90.5 FM. On est toujours sur chez Paolo, Kevin.
Ouais.
Rue Ravanel-le-Rouge, donc.
Exactement.
Pour notre rencard. Et il y aura donc, on le disait, concert tout à l'heure à 19h si vous venez profiter du soleil de ce bel été indien. Ce soleil qui nous fait plaisir. Et nous, on retrouve tout de suite Cassilia Fauré, qui est donc la directrice de la nouvelle et unique galerie de street art de Chamonix. Ça fait un beau contraste, ça, du street art au cœur de la montagne, Cassilia.
Alors oui, mais finalement, l'un n'exclut pas l'autre. C'est ce qui est aussi intéressant de pouvoir apporter autre chose, sans nier l'identité, bien sûr, de Chamonix. Et puis, je pense que c'est bien d'apporter un petit peu de diversité et de modernité.
Et quand les gens sont venus vous voir là sur ce un mois et demi d'ouverture, c'est pas grand-chose, mais est-ce que c'est un public quand même qui est averti à ça, qui comprend, ou au contraire, c'est de la grande découverte et c'est génial?
Alors, on a forcément des deux, mais comme partout, je vous dirais, donc pas plus, pas moins qu'ailleurs, on a effectivement un vrai public averti qui connaît nos artistes et qui a une vraie culture artistique et du street art. Et puis forcément, il y a des gens qui découvrent ou qui connaissaient déjà plus ou moins, mais pas forcément dans le détail. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que de manière unanime, on a un accueil vraiment chaleureux et les gens sont contents qu'on soit là et qu'on soit bien installés.
Et donc vous venez d'Annecy, vous avez travaillé pendant longtemps dans des galeries d'art, donc ça vous connaît le côté culturel et artistique. Et pourquoi avoir pensé à un tel projet ici dans la vallée de Chamonix? Alors il y a quelques galeries qui existent ici aussi dans la vallée qui proposent clairement tout le contraire, mais ou l'opposé, ou je ne sais pas si on peut dire contraire ou opposé, mais autre chose, on va dire.
Alors, c'est justement pour ça qu'on est là, parce qu'il y a déjà effectivement de belles galeries ici, mais assez peu, et qui sont sur des courants tout à fait différents. Donc, l'un n'exclut pas l'autre, mais c'est bien de pouvoir proposer autre chose, voilà, d'avoir une galerie d'art contemporain, de proposer quelque chose de plus moderne et de donner une vraie visibilité au street art, parce que je pense que la montagne et le street art peuvent très bien se mélanger et mettre l'un et l'autre en valeur. Quand on a un très beau chalet, ça peut permettre de mettre en valeur justement par une pièce beaucoup plus moderne, et par le contraste, l'un et l'autre ressortent d'autant mieux.
Et dans la galerie, vous me disiez, parce qu'on a discuté un peu aussi en amont quand je suis venue vous voir à la galerie, d'ailleurs, ceux qui veulent venir, vous pouvez rentrer dans la galerie, vous êtes ouverte tous les jours. Bon, des fois quelques fermetures. Si vous souhaitez, vous pouvez appeler Cassilia avant de venir pour lui rendre visite. Y a de tous les prix en fait. On peut autant, comme vous disiez, peut-être avoir un beau chalet, avoir les moyens et d'investir dans une belle œuvre d'art. Mais il y a aussi des œuvres d'art qui sont un peu plus, on va dire, au prix un prix plus raisonnable, plus accessible.
Oui, exactement. C'est vrai que la galerie est ouverte à tous, il faut le dire. L'entrée est libre. Le but, c'est aussi de faire de belles rencontres. Et en termes de prix, on va avoir effectivement des fourchettes qui sont très variées, puisqu'on propose aussi bien des artistes reconnus et très cotés qui pourront effectivement convenir à certains besoins. Des coups de cœur, de toute façon, ce sont toujours des coups de cœur, mais avec peut-être une notion un peu plus de connaisseur et d'investissement. Et aussi des artistes émergents, des lithographies. Donc on peut vraiment se faire plaisir sur un coup de cœur, une émotion, de la décoration, un investissement. C'est ouvert à toutes les envies.
Alors à toutes les bourses, après ça reste de l'art, donc ça, c'est quand même un certain prix, hein, on va dire. Ça commence, vous le disiez, voilà,
bien sûr,
entre 500, 1000, 2000 euros, ce qui est quand même abordable.
Bien sûr, on ne dénature pas, attention, le travail des artistes, mais en fonction du support, du format de l'artiste et du type d'édition, on peut avoir des budgets assez variés et qui permettront d'être plus facilement accessibles à tous. Bien sûr, on fait aussi des facilités de paiement en fonction des budgets et des envies.
Et donc vous le disiez tout à l'heure, on voulait y revenir sur le street art. Pour les gens qui ne connaissent pas, ce sont des artistes souvent qui ont commencé dans la rue et qui ne passaient pas forcément les portes des galeries ou des musées ou même des salles de vente. à l'époque, ça a été difficile de les faire rentrer dans des galeries. Là, aujourd'hui, voilà, chez vous, c'est que ça. C'est une galerie complètement consacrée à ça.
Exactement. Donc, c'est, j'ai envie de vous dire, l'heureux paradoxe, c'est que ce sont des artistes qui ont été décriés, pourchassés hein, dans l'illégalité. Et puis maintenant, même sur les murs, les communes viennent les chercher pour des projets, pour une visibilité, et tant mieux. Et effectivement, certains de ces artistes sont passés d'une création de fresques sur mur à une adaptation sur toile. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, on a certains artistes qui réagissent de la même manière sur l'un ou l'autre. Et on en a d'autres où finalement, le travail sur toile va nourrir le travail sur mur et inversement. Donc, il y a une vraie évolution. Et puis ce qu'il faut dire, c'est que pour la plupart des artistes, ce qui est important à l'origine du street art, c'est cette visibilité pour tous. L'art appartient aux passants, donc ça c'est vraiment quelque chose d'important. Et tous continuent de produire dans la rue pour ça. Par contre, il y a aussi un côté éphémère que les artistes acceptent, mais ce à quoi permet de parer une galerie d'art en leur offrant une visibilité sur toile pour avoir une pérennité et une vraie continuité, et puis rentrer aussi chez les gens et avoir... Cette propriété, cette accessibilité, donc l'un et l'autre se complètent.
Mmh. Bon, à la métagalerie, on y est à peu près, hein, puisqu'il y a des grandes vitrines, donc on est presque
exactement
dans la rue, en fait.
J'ai tout à fait raison.
Et on est presque sur du street art. Donc, comme vous le disiez, j'allais vous le demander, mais c'est des artistes qui continuent pour la majeure partie à créer pour la rue et dans la rue.
Tout à fait, oui. L'un et l'autre ne s'excluent pas, et c'est vraiment ce que je disais, des médiums qui sont complémentaires et avec des messages qui se rejoignent.
Bon, écoutez, merci beaucoup Cassilia Fauré d'être venue au micro de Globule pour parler donc de la Méta Galerie. C'est à Chamonix-Sud, à côté de la pharmacie de l'Aiguille du Midi. C'est ouvert à partir de 11h. Est-ce que c'est tous les jours? Non, vous avez quand même des jours de fermeture.
Alors actuellement, c'est effectivement du mardi au dimanche. Après, comme vous le disiez, ne pas hésiter à nous passer un petit coup de fil. Si on est absent, on se libérera. Je serai heureuse de vous accueillir.
Et on vous suit sur les réseaux sociaux aussi, donc Méta Galerie sur Instagram et sur Facebook.
Exactement.
Merci beaucoup.
Merci à vous de m'avoir reçu. I talk for a reason, sing for a reason, some may say I lost my mind. Trust for a reason, fight for a reason, look around. Time to say what you wanna say, do what you wanna do, live your life all the way. Hey. Oh my God, got that run today. Well, quick, judge your best game. No, quick, open up your eyes and see that all is to be made. Oh my God, got that run today. Well, quick, judge your best game. No, quick, open up your eyes and see that all is to be made. Open mind, an open heart. Try with ambitions, stand by my intuition. Never fail me, never hurt. Just feel how you wanna feel. The deeper, the real dive. Just spin that wheel. Open up your eyes and see that.
I'm
toujours sur Globule Radio 90.5 FM et sur nos réseaux sociaux en direct de Facebook pour les gens qui nous regardent. On précise d'ailleurs pour nos téléspectateurs et téléspectatrices que nous ne pouvons pas diffuser les bonnes musiques que nous passons sur la bande FM pour des histoires de droits d'auteur. Mais bon, on respecte, surtout qu'on fait en plus une émission sur la culture, donc il faut bien respecter les auteurs, etc., etc., et tout leur travail. Et donc c'est l'heure de recevoir notre deuxième invité, comme vous pouvez le voir sur Facebook, qui vient de s'installer avec nous à table, qui attendait son café, Paolo, mais qui ne l'a pas eu.
C'est avant tout un alpiniste, un passionné de la montagne, qui il y a 20 ans posait devant l'objectif pour des gens qui cherchaient à le figer dans sa passion, ouais. Comme prise dans la glace. Les...
Même un peu plus, quoi.
Alors, oui. Le saisir, quoi. Et ensuite, il est passé derrière la caméra, enfin derrière l'objectif, pas la caméra, excusez-moi, pour se mettre justement à lui-même communiquer autour de sa passion. Et quand on mélange la montagne, la photographie et une grande qualité artistique, on obtient Fred Bernard. Monsieur Bernard, bonsoir.
Bonsoir.
Et merci donc d'être parmi nous ce soir pour commencer. Une simple question, qu'est-ce que c'est un photographe outdoor? Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors un photographe outdoor, c'est comme son nom l'indique, un photographe qui va travailler dehors. Il y a plusieurs types de photographes outdoor. Il y en a qui travaillent pour l'action, d'autres qui sont plus artistes, d'autres plus paysages. Donc voilà, ça englobe grosso modo... Ces formes de photographie. Pour ma part, je fais pas d'action, enfin très peu, parce que j'ai fait beaucoup d'action en étant plus jeune et j'ai trouvé que j'avais fait un peu le tour de ça, donc je voulais faire quelque chose de plus artistique. C'était un peu un rêve de presque de gamin, parce que j'ai toujours dessiné, j'ai toujours fait des choses créatives. Et maintenant, je fais mes photos, soit des photos d'instants très 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 particuliers, soit des photos que je scénarise et que je mets en scène et que je photographie. Donc la première tâche, c'est déjà de dessiner la photo. Ouais, je dessine ce que je scénarise. Ouais.
Je lisais sur votre site que vous vous autoproclamiez photographe d'art naturel.
Voilà, c'est un peu ça, dans la mesure où la nature me donne ce que j'ai envie de trouver dedans par ma connaissance du milieu et puis ma connaissance de la lumière en montagne. Mais j'utilise maintenant cette connaissance de la lumière pour scénariser mes photos et amener des gens en montagne et faire des scènes improbables.
Oui, parce que vous êtes du coup guide et alpiniste aussi.
Oui.
Et d'ailleurs, j'avais une question là-dessus. Quand on se met à faire de la photo pour la recherche de la photo, pour justement vous scénariser vos photos, est-ce qu'on prend, grâce à vos qualités d'alpiniste, est-ce qu'on prend pas un peu plus de risques en tant qu'alpiniste pour aller chercher cette photo, pour aller la faire, pour aller plus
loin
dedans ?
Non. La gestion du risque, on l'a déjà au quotidien dans le métier de guide. Du coup, je pense que j'ai beaucoup travaillé sur les tournages de photos, de films, sur la sécurité des cadreurs ou des photographes quand j'étais surtout à mes débuts de guide. Et j'ai conscience de ça. J'ai vraiment conscience que la photo peut nous amener, ou le cadrage en vidéo, au cinéma, il peut vraiment nous amener à des situations dangereuses. Parce qu'on est tellement focalisé
ouais.
sur ouais, ce qu'on veut. Ça, ouais. Il faut pas oublier d'où on met les pieds, quoi. Donc oui, il faut faire attention, surtout quand on est seul, parce qu'il n'y a pas de garde-fou, c'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui est là pour dire attention, fais gaffe, t'es un peu trop loin. Puis,
du coup, faut aller chercher la petite lumière, petit truc.
Ouais, petit temps qui vraiment va faire la différence. Et puis, c'est ce qui fait vraiment le cachet de ces photos, de pouvoir être alpiniste et photographe, c'est d'aller chercher les angles particuliers.
Et vous avez la chance de pouvoir aller dans des endroits où les gens ne vont pas, surtout.
C'est ça, surtout avec le matériel de photo. Mmh. Ouais, parce que c'est un matériel qui est quand même assez lourd. Du coup, tout le monde ne va pas forcément porter son matériel là.
Donc, et comment ça se passe à peu près une journée de... Vous avez une idée, ça se concrétise et vous y allez.
De manière générale, quand je vais en montagne pour faire des photos, je sais ce que je vais photographier. À quelle heure, à quel endroit. J'ai tout mis en place. Après, pour ce qui est de l'exposition 2050 en particulier, là, c'est très scénarisé. Donc, quand je suis allé à faire les photos pour cette expo, pour ce projet, c'est avec des modèles. Alors, c'est très figé dans le temps. Parce que moi, je paye les modèles, du coup, j'ai pas envie d'y passer deux jours, quoi.
Oui.
Parce que j'ai pas les moyens de ça. Et donc, je suis très précis dans la fenêtre que je vais utiliser. Alors, ça demande beaucoup d'anticipation et c'est pour ça que je fais les dessins.
C'est vrai que vous disiez, vous dessinez vos photos, ça c'est incroyable, je l'avais jamais entendu.
Alors, bon, c'est pas. C'est des dessins utilitaires.
D'accord.
C'est-à-dire que.
Très technique.
Ouais, très technique. Moi, je suis pas un fin dessinateur, mais je dessine. Je dessine ce que j'imagine, ce que je voudrais avoir, et puis je mets des annotations dessus. C'est-à-dire la tenue du modèle, le soleil où je l'imagine. Enfin, tous ces
points-là.
Mais
ça, c'est que pour les photos un peu justement qu'on va pouvoir voir dans cette exposition 2050 aux galeries.
Décalées. C'est vraiment décalé. Ouais, ça, c'est vraiment décalé.
Parce que vous faites quand même des photos comme ça que vous prenez
avec personne dessus. Ouais, je fais aussi des photos avec, bien sûr, ça représente, je pense, 80% des photos que je fais.
D'accord.
Donc là, c'est autre chose. Je dessine pas parce que j'ai tout en tête. Donc, mais quand je travaille avec des gens, j'aime bien dessiner. Comme ça, j'anticipe vraiment ce que je vais faire.
Un gain de temps et peut-être de...
Et aussi, la continuité du projet. C'est-à-dire que ça évite de partir dans tous les sens. C'est-à-dire que si je dessine 8 photos... Et ben comme ça, je sais que je me suis calé sur les tenues, sur il n'y a pas de répétition quoi. Mmh.
Ouais. Et ça rend souvent ce que vous aviez en tête ou pas?
Alors la scène globale, c'est souvent il vaut mieux que ça rende ce que j'avais en tête.
Oui. Oui. En soi, oui, c'est vrai.
Mais l'instant, c'est à moi de le voler quoi. C'est-à-dire que
c'est tout l'art de la photographie.
Exactement, parce que autrement on ferait une photo d'une scène de théâtre. Mais l'instant qui va faire que la photo sera top, ça je l'ai pas prévu. Puis il y a des modèles avec qui c'est plus facile de travailler que d'autres. Il y en a, il faut vite les comprendre pour que la finesse de la personne elle ressorte sur la photo. Donc ça c'est intéressant. Ouais. Ouais.
C'est de la psychologie presque. Enfin,
c'est au moins l'écoute des personnes avec qui on travaille.
La relation entre le photographe.
C'est vraiment écouter la personne, savoir comment elle va réagir. Beaucoup de précision dans l'information qu'on va donner pour essayer d'avoir au maximum le rendu qu'on a imaginé. Et puis, une fois que tout est calé, on lance le mouvement. Et là, il y a un moment où ce sera mieux que l'autre. Et il faut avoir l'œil dessus. Quoi.
Ben, on va faire une petite... toute petite pause musicale et on se rejoint après justement pour parler de 2050.
Avec
staring up the window.
Fred Bernard, vous êtes avec nous.
Quand on regarde votre travail, on s'aperçoit qu'en plus de la démarche purement artistique, il y a un message écologique qui se dégage un peu. Comment on passe d'artiste à artiste un peu engagé? Est-ce que vous l'êtes déjà? Est-ce que vous vous considérez comme artiste engagé?
En fait, de par mon métier de guide, je pense que je suis un messager comme tous les guides. C'est-à-dire qu'on est observateur et on a des choses à raconter parce qu'on s'aperçoit que c'est quand même... C'est catastrophique ce qui est en train de se passer. Soit on se morfond dans la situation actuelle en disant voilà, c'est triste du matin jusqu'au soir. Soit on vit avec, on s'adapte et notre métier de guide il est avant tout ça. On doit s'adapter. Pour mes idées de création de photos, je me suis dit autant tourner ça d'un côté humoristique et ironique qui tourne à la dérision la chose, même si c'est très grave. C'est-à-dire que à travers les photos que je présente en 2050, c'est, si on regarde bien derrière, c'est très grave ce qui se passe et le message il est très grave. Mais je pensais que c'était important d'avoir une vision un peu humoristique de la situation,
oui.
Caricaturale et humoristique.
Et donc, qu'est-ce qu'on peut voir sur vos photos pour avoir un petit avant-goût?
Alors, 2050, l'idée... je me suis dit qu'en 2050, les gens auraient... Et je les ai pris dans leur situation de ville et je les ai transportés directement en haute montagne. Voilà, donc c'est des situations improbables.
Et est-ce que vous pouvez nous en décrire une comme ça? Alors c'est vrai que c'est de la radio, mais...
Je vais décrire celle qui présente l'expo. Donc c'est une Indienne avec un sari qui, de par sa situation de vide pleine, très chaude... Et je la transporte directement à 3500 mètres d'altitude et elle est un peu perdue sur un glacier. Elle cherche son chemin au milieu des crevasses et des séracs. Et voilà, grosso modo, le contexte, c'est ça. Après, il y a tout un ensemble. 2050, grosso modo, toutes les photos sont prises dans un contexte assez monochromique. C'est-à-dire qu'il n'y a, qu'une couleur qui ressort. C'est pas noir et blanc, c'est couleur, mais globalement, il n'y a qu'une couleur liée au jour blanc avec lequel je traite. Il n'y a pas de soleil fort.
Et par exemple, pour ce personnage-là, vos personnages, parce que c'est un peu comme raconter une histoire 2050, c'est raconter ce qui va se passer.
Ouais, c'est une projection.
D'après vous, est-ce que vos personnages sont déjà préparés à ce qui se passe autour d'eux ou est-ce qu'ils tombent des nus un peu dans cet univers qui est la montagne?
Les personnages avec qui j'ai travaillé ou les personnages fictifs?
Vos personnages fictifs.
Ah oui. Non,
ils sont prêts à être à la montagne?
Ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts, mais on observe quand même que l'été, il y a des nationalités qu'on voit maintenant en montagne qu'on voyait pas avant. Donc c'est qu'ils ont vraiment trop chaud chez eux, quoi.
Et vous parliez tout à l'heure, on parlait hors micro du coup d'un documentaire qui
a un lien avec
justement en lien avec toute cette exposition.
Donc,
2050,
il y a un documentaire qu'on a tourné entre juin 2020 et l'automne 2020, donc ils m'ont suivi pendant tout le tournage des photos. Et c'est un peu une rétrospective des photos que je faisais avant et pourquoi j'en suis arrivé là à travers les voyages dans le monde et pourquoi maintenant j'aime bien traiter des sujets qui sont artistiques et construits. Donc ce documentaire il sortira on va dire fin octobre, hein, deuxième quinzaine d'octobre. Il est quasiment fini, hein, et il sera diffusé sur des chaînes télé, des chaînes documentaires, des lunettes,
Et surtout, festival. Ce qui est important aussi pour les Chamoniards, c'est cette exposition. Donc, on peut la voir où? On disait, c'est
alors,
à Chamonix.
Ouais, l'exposition en 2050, le vernissage est demain soir à la Galerie Café des Aiguilles. Et elle aura donc, elle est installée à partir de demain soir et jusqu'à Noël. Donc, à la Galerie Café des Aiguilles, 129 rue des Moulins.
On a le temps de venir la voir, du coup. On a jusqu'à Noël avant que...
Exactement.
Puisqu'il fera plus chaud à Noël, du coup.
Ouais. On espère.
Une petite question, du coup, à ce niveau-là, vous êtes plutôt optimiste ou plutôt pessimiste?
Alors, bon, ça dépend de quel point de vue on se place. Si c'est... d'un point de vue planète, moi je suis très optimiste pour la planète. La planète, elle va gérer son truc. Si on n'est plus là, elle le gère encore mieux, quoi. Pour l'humanité, je suis pas vraiment optimiste. Hein.
C'est plutôt... c'est moi, toi.
Ouais, c'est mal barré l'histoire. Même en faisant les efforts, je crois que d'ailleurs la première photo de l'exposition, vous verrez, s'appelle Politique de l'autruche et elle représente vraiment bien les gouvernements, quoi.
On a hâte d'aller voir ça.
Eh bien, merci beaucoup. On rappelle donc que vous exposez à la Galerie Café des Aiguilles. Et pour les auditeurs qui voudront en savoir un peu plus et même en voir un peu plus sur votre œuvre, où est-ce qu'ils peuvent se rendre? Est-ce
sur
que vous avez un
site.
Instagram?
Voilà, j'ai un site, fredbernard-photo.com.
Ouais.
Et voilà, facile. Il y a un Instagram, mais je mets vraiment
des
photos plutôt de la vie courante de montagnard. Mais voilà. Donc le site, il fonctionne pas mal.
Eh bien, c'est super. Merci beaucoup d'être venu au micro de Globule.
Merci à vous.
Et nous, on se quitte sur On a Roll de Balthazar. I must have been on a roll, kept on losing control. Oh, but then that is not meant to make sense out of it all. Oh, but it's taking its toll, shakes the body and soul. And my two arms don't reach far enough to embrace it all. I must have gone through a phase, must have been in a daze. Can't get away, cannot turn the page, I'm right in a cage. I must be under a spell, as far as I can tell. I'm in a trance, you stand on chance, so I know damn well. We'll be right back.
to you. Oh, I know you've seen that coming, telling me I should stop running from it all. But how I keep on running.
Il est 18h tout pile et vous écoutez Globule Radio. Nous sommes en direct de chez Paolo. Comme vous l'entendez, il y a du monde sur la terrasse. N'hésitez pas à venir nous voir. On parle de culture ce soir et on va visiter virtuellement l'exposition à l'usine Simon dans un instant avec Thierry Bergerand. Mais tout de suite, les infos avec Sophie Sarance.
Bonsoir à tous. Une série de mesures pour soutenir le secteur de l'accompagnement des personnes âgées. Jean Castex promet 10 000 soignants en plus dans les EHPAD d'ici 2025 et un soutien de 240 millions d'euros à l'aide à domicile dès 2022. Des annonces en marge de son déplacement ce matin en Saône-et-Loire sur le thème de la dépendance. Ces mesures seront inscrites dans le budget de la Sécurité sociale pour 2022 qui doit être présenté demain. Une journée de mobilisation peu suivie dans l'éducation nationale. Le ministère annonce entre 4 et 6 % de grévistes, alors que les syndicats appelaient à manifester partout en France pour réclamer un plan d'urgence dans l'éducation. De leur côté, les syndicats parlent de 15 à 32 % de grévistes, des enseignants qui comptent se mobiliser de nouveau le 5 octobre pour une journée de grève, cette fois-ci interprofessionnelle. Deux interpellations après les incidents entre supporters d'Angers et de Marseille. Des affrontements ont éclaté hier soir au pied d'une des tribunes du stade Raymond Coppa, à l'issue de la 7e journée de Ligue 1. La commission de discipline de la Ligue doit se réunir ce soir pour évoquer d'éventuelles sanctions. Christiane Taubira tente de calmer la polémique. Elle a refusé d'appeler les Guyanais à se faire vacciner, alors que le département d'Outre-mer est l'un des moins vaccinés de France et reste très affecté par le Covid-19, avec un taux d'incidence de 500 cas pour 100 000 habitants. Les arguments anti-vax sont un tissu d'imbécilité. Je suis moi-même vaccinée, écrit sur son compte Twitter l'ancienne garde des Sceaux. Les écoliers, eux, vont pouvoir bientôt tomber le masque. Il ne sera plus obligatoire dès le 4 octobre. Dans les départements où le taux d'incidence du Covid-19 sera inférieur à 50 pour 100 000 habitants, le ministre de l'Éducation indique par ailleurs que les collèges et lycées pourraient eux aussi abandonner le masque d'ici novembre, mais uniquement si la tendance à la baisse se poursuit. Et puis des Ouigo, pas chers et à petit prix. La SNCF va lancer au printemps 2022 une nouvelle offre avec des trains grandes lignes classiques et à bas prix. Ça concernera les lignes Paris-Nantes et Paris-Lyon avec des billets quotidiens vendus entre 10 et 30 euros. Voilà pour l'actualité. Excellente fin d'après-midi à tous.
Je pense qu'on peut démarrer la paix. Et vous l'aurez votre terrasse.
Entrepreneur, artiste, artisan, sportif, organisateur de concerts
et d'événements.
Ils prennent la parole au micro de Globule.
Faut se sortir d'ici, hein, sergent. Pourquoi ? T'as un rancard ?
Rancard, c'est la tournée d'été des terrasses de Chamonix.
Rancard, à suivre aussi sur le 90.5 et sur nos réseaux sociaux. Rancard.
La tournée d'été des terrasses de Chamonix.
En partenariat avec Europcar et le département de la Haute-Savoie. Rancard.
T'as un rancard.
18h04 maintenant sur Globule Radio. Et c'est Rancard qui a pris ses quartiers rue Ravanel-le-Rouge, chez Paolo plus exactement. C'est une deuxième pour nous ici ce soir, toujours aussi bien reçue d'ailleurs, à l'italienne, aux pétillantes, petite charcuterie. Merci, merci Paolo.
On attend la charcuterie.
On attend toujours la charcuterie d'ailleurs, oui c'est vrai. Merci Paolo. Et maintenant on va recevoir notre nouvelle invitée.
Voilà, parce que bien recevoir, je crois que notre nouvelle invitée sait de quoi il parle lui aussi. Bonjour Thierry Bergerand.
Bonjour.
Voilà, vous avez plein de casquettes et toutes plus ou moins liées à la créativité. La première donc, savoir recevoir, c'est parce que vous êtes restaurateur. C'est vous et votre famille qui tenez le café comptoir à Valorcine, juste derrière la gare si vous voulez y aller. Vous êtes également photographe, designer de marque. On reviendra plus tard sur ce terme pour ceux et celles qui ne comprennent pas. Et un peu malgré vous, vous êtes tombé dans la scénographie. Vous avez monté plusieurs expositions, d'abord chez vous justement au Café Comptoir, et puis avec la marque Rossignol, et puis dernièrement, vous avez participé à l'exposition au musée Simon, l'exposition Simon Héritage, 180 ans d'histoire. C'est un espace musée, on va dire, dans la nouvelle usine qui est juste au-dessus du rond-point de la Vigie. Alors vous n'êtes pas seul derrière ce projet, il y a également Denis Pivot, un collectionneur qui ne veut pas qu'on l'appelle collectionneur, mais qui est quand même collectionneur. Et puis à la base, il y a aussi Olivier Bonnet, l'ancien directeur, malheureusement décédé en montagne. Alors, moi j'ai eu la chance de voir l'exposition, il y a plein d'objets là-haut, de photos, de textes, d'archives. Qu'est-ce qu'on peut y voir pour les gens qui n'y sont pas encore allés et comment d'ailleurs ? Parce que c'est tout ce qui nous intéresse aussi.
Oui, alors c'est un vaste sujet finalement, qui est difficile à résumer comme ça en un quart d'heure, mais c'est effectivement une très belle exposition qui pour moi représente quasiment pas loin de 4 ans de travail finalement. Pas tellement sur l'installation même de l'exposition, mais sur la construction qui s'est fait en plusieurs étapes. Et puis effectivement, c'est un travail que j'ai pas fait tout seul, qui a été fait avec Denis Pivot, qui lui a vraiment fait un travail dans le même temps, pratiquement sur 4-5 ans, de retracer toute l'histoire, non seulement de la famille Simon et de la fabrication des piolets, mais de la famille Charlet aussi, de Chamonix, et d'autres. Enfin, lui, il a fait un inventaire de toutes ces...
De ces grosses familles et de ces gros héritages.
Et des beaux objets qu'ils ont produits, quoi. Donc, c'est Simon est un acteur essentiel, évidemment. On passe 180, mais 150 ans d'histoire, en fait. C'est vieux et c'est pas vieux, en fait. Hein. C'était presque hier. Et 150 ans d'histoire qui concerne vraiment toute la vallée de Chamonix. Les Chamoniards se retrouvent, c'est une partie de notre histoire aussi. Quoi,
c'est vrai que quand on se balade donc dans l'exposition, à travers les âges, finalement, vous commencez dès le début. On peut voir d'ailleurs les premières fermes de la famille Simon. Il y a des cloches de vaches. On part vraiment de la genèse.
La genèse, oui, effectivement, c'est surtout l'histoire au départ d'une famille de forgerons qui au tout début, c'est dans les années 1860, je ne vais pas vous faire l'historique complet, mais
sinon on est encore jusque demain.
Des sonnettes, du matériel agricole, voilà. Et assez rapidement, ça correspond à la grande époque de l'alpinisme qui démarre dans la vallée de Chamonix, l'arrivée de beaucoup de gens qui viennent pratiquer du tourisme, beaucoup de gens qui viennent pratiquer la montagne, notamment des Anglais. Voilà, c'est comme ça que ça démarre. Et ils vont voir, ces gens-là vont voir des forgerons pour faire réaliser un piolet.
Un premier piolet. Et donc, pour pas effrayer les gens, voilà, sinon on pourrait parler de l'histoire effectivement de la famille Simon pendant des heures, mais là-haut, c'est quand même assez bien fait parce qu'on n'est pas obligé de s'y perdre pendant 6 heures. C'est assez concentré et en même temps, comme vous dites, ça retrace aussi des dizaines et des dizaines d'années. Donc, il y a des piolets, il y a des objets.
Oui,
Qu'est-ce que vous avez mis en avant aussi?
On a mis en avant, il y a plusieurs niveaux de lecture de cette exposition qui permet, comme vous le dites, de pouvoir visiter finalement, on va dire, en 20 minutes, en ayant perçu la chronologie, les grandes étapes, les grandes aventures humaines et les grandes premières. Et puis ensuite, il y a au moins 3 niveaux de lecture avec une deuxième lecture qui va aller raconter la genèse de l'histoire par la famille Simon et tous les grands créateurs finalement de la famille qui sont présentés. Donc c'est un peu plus complet, on y passe un peu plus de temps. Et puis après, toutes les histoires qui sont reliées à tous les objets. Donc je me rappelle plus du chiffre exact qu'on a retenu au niveau des objets, mais c'est un peu pas loin de 400 objets qui sont présentés sur une liste qui était plus longue au départ, mais qu'on avait qu'il fallait rentrer dans cet espace. Et ces 600 objets ont presque tous une histoire à raconter, évidemment. Et ils sont reliés soit à des grands alpinistes. Pour certains, c'est les piolets des hommes de légende qu'on peut vraiment voir pour de vrai, j'allais dire. Et d'autres, c'est le piolet. Quand on n'a pas trouvé ce piolet-là, ayant appartenu à, on a le piolet qui correspond exactement au piolet fabriqué pour tel ou tel guide.
Voilà, ils sont marqués, ces piolets, et c'est peut-être ça qui vous a aidé dans les recherches. Il y a d'ailleurs une histoire assez incroyable et magnifique où il y a un piolet qui a été retrouvé par un soldat des années plus tard qui s'était coincé dans de la glace. Et c'est ce jeune soldat qui l'a ramené. Enfin, le piolet a fait le tour du monde et tout ça est super bien expliqué finalement dans cette exposition.
Il a fait un peu plus du tour du monde, quoi. Il a fait vraiment, il a énormément voyagé, ce piolet, pour retrouver sa place
à Chamonix.
C'est une très, très belle histoire. Alors, il n'est pas complet, il a manche cassée. Effectivement, il faut aller sur place pour le vivre. C'est à chaque fois lié à une émotion, en fait. Hein. Et c'est ce qui est intéressant. Il y a du matériel très prestigieux qui a été prêté par des familles de grands guides très connus. qui sont dans des vitrines. Voilà. Et c'est vrai que c'est vraiment un facteur d'émotion important parce qu'on se retrouve vraiment, enfin moi en tout cas, ça m'interpelle, ça me capte avec cet objet mythique finalement. Il a été dans la main, un piolet qui a été dans la main de Lionel Terray, de Louis Lachenal, de Gaston Rébuffa. Enfin voilà,
c'est dans des moments un peu sensibles, on imagine.
Et
en plus.
Voilà, donc c'est quand même des légendes hein, ici dans la vallée. Et se les trouver comme ça, oui, je trouve que c'est très émouvant. Et c'est toujours un peu comme ça d'ailleurs, puisque on se retrouve aussi avec des faits d'histoire importants, l'histoire de l'alpinisme très important. Et tout ça s'est concentré dans cet espace, quoi. Et quand on se retrouve face au piolet, enfin le même piolet et le même paire de crampons qui a servi à gravir la Napurna pour Herzog et Lachenal, par exemple, ouais, c'est quand même des piolets Simon, c'est quand même des crampons Simon, quoi. Et quand 3 ans plus tard, en 53, on voit donc le Sherpa Tenzing au sommet de l'Everest en train de brandir un piolet, c'est encore un Simon. Et non, c'est vraiment, moi je trouve ça incroyable. J'ai découvert cette histoire, effectivement, avec la première exposition que j'ai montée au Café Comptoir, à la demande de Ludger Simon d'ailleurs. Et je n'avais pas d'idée complètement conçue sur. Voilà, je voyais ça d'assez loin. Et j'ai trouvé ça incroyablement riche, quoi, très fort.
Et vous avez réussi à transmettre, voilà, on le sent, cette passion pour l'objet, ou du moins cet objet qui transmet toute une histoire, dans cette scénographie qui est assez, finalement, moderne. Là aussi, pour ne pas faire peur aux gens qui en ont peut-être marre d'aller au musée alpin, etc. C'est très moderne, cette exposition, et vous avez mis en valeur les piolets d'une manière voilà, assez contemporaine qu'on n'a pas forcément...
Alors ça, c'est un souhait de départ. Tout d'abord, il y a le lieu. Il y a le lieu qui, lui, est contemporain. Donc, on aurait pu aller à l'encontre du lieu, mais c'était, à mon avis, pas la bonne stratégie. Et il y a aussi cette histoire qui, finalement, chaque fabricant de piolets de la famille Simon, ils sont cinq grands hommes, ont tous été visionnaires et très contemporains. Donc c'est vraiment, ça pouvait pas être autrement, quoi.
Que contemporain.
Et donc c'est appuyé sur des images d'archives qui sont très fortes, très belles, qui racontent effectivement tout ça. Mais c'est vrai que l'écriture même de la scénarisation, elle est allée dans les purs, évidemment, et pour laisser la place aux objets, quoi. Encore une fois, c'est quand même à un moment donné les objets qui doivent être rois dans cette visite.
Alors ne bougez pas Thierry Bergeron, on vous retrouve tout de suite, on part en balade en forêt assez mélancolique avec Barba Gallo et son clip empli de brouillard comme certains matins à Chamonix dans la vallée, c'est « Ça tu me » de Barba Gallo.
Passer à tes pieds, à tes mains. danser, danser.
Sur le 90.5 FM Globule Radio, et nous sommes toujours en compagnie de Thierry Bergeron qui était en train de me montrer ses magnifiques livres, toujours reliés à cette exposition qui a lieu donc à l'usine Simon. Je vous conseille d'appeler avant d'aller à l'usine parce qu'ils ne sont pas forcément toujours ouverts au public, donc pour éviter de monter pour rien. Voilà, donc pour les gens qui nous voient sur Facebook, vous pouvez regarder ces belles premières de couverture qui sont magnifiques. Et je voulais, donc, on a parlé de Simon, mais comme on disait, vous avez beaucoup de casquettes, Thierry Bergeron. Il y a toujours un fil rouge, c'est la créativité chez vous. Donc, voilà, il y a eu la scénographie. Vous êtes aussi, vous dites, designer de marque. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est, ça? C'est toujours autour de la créativité de l'image.
C'est l'héritage de mon ancien métier, puisque j'étais pendant pas mal d'années directeur artistique dans la publicité. Et de cette aventure, j'en ai gardé un grand amour des marques, en fait, et de leur histoire. Et c'est vrai pour à peu près toutes les marques que j'ai rencontrées, mais il y en a qui forcément sont très porteuses de patrimoine, font partie de notre identité à tous. Et quand on a la chance de pouvoir mettre en lumière ces marques, travailler avec et tout, c'est toujours un grand plaisir. Donc quelque part, c'est ce que j'ai un petit peu, je pense, suscité.
Voilà, il y a quelque chose en tout cas dans votre carrière, si on peut appeler ça finalement une carrière, mais dans tout ce que vous faites, voilà, c'est autour de l'objet, de la créativité et comme
et
on
de
disait,
l'histoire
beaucoup
aussi,
d'histoire, de patrimoine et beaucoup d'émotions autour de ça. Vous avez fait un travail magnifique, si on peut en parler, avec les artisans de Valorcine. Qu'on peut voir notamment sur votre site instanté.com. Je vous conseille d'aller regarder ce travail. Là encore, une fois, on est aussi autour de... Il y a des portraits, mais il y a aussi des objets photographiés.
Oui,
vous pouvez nous en dire
là,
plus sur ce projet.
C'est extrêmement sentimental pour moi. C'est relié vraiment à... Alors, pour le coup, à l'histoire de mon village, Valorcine, et des gens qui sont des artisans, mais des gens qui sont extrêmement, extrêmement doués, effectivement, extrêmement, je sais pas, je trouve pas le mot parce que c'est difficile à exprimer, mais qui ont une espèce de distance par rapport à ce qu'ils font, tout ça, qui est assez incroyable. Enfin, c'est des belles personnes, quoi. C'est que des belles personnes.
Oui, alors on vient toucher en plus l'art, l'artisan, le mélange entre tout ça. Peut-être que ça vous touche aussi.
Pour moi,
aussi,
c'est
ça.
Des artisans d'art. Hein, donc, à un moment donné, c'est là où les choses s'entremêlent. Il y a de l'artisanat traditionnel, évidemment, au milieu de tout ça, mais c'est fait avec un tel goût, etc. C'est toujours de l'artisanat d'art pour moi. Voilà.
Et vous avez rencontré qui alors à ce moment-là, et c'était quand d'ailleurs?
C'était, je
pense... Ah, la question.
Bêtise, oui, voilà, dans la chronologie, il y a 5 ans, 4
ans. Il y a 5 ans, oui.
4 ans, pardon.
Et vous avez rencontré quel artisan à Valorcine?
J'ai rencontré, donc, en fait, j'ai opéré une sélection d'artisans. C'était au départ, il fallait déterminer, qu'est-ce qu'on met sous l'étiquette artisan. Bon, à Valorcine, c'est un endroit où... où il y a encore énormément, c'est très vivace l'artisanat à Valorcine, ça reste aujourd'hui, il y a des ateliers, il y a des gens qui travaillent et qui travaillent régulièrement de cet art-là et qui montrent leur travail, qui le vendent, enfin voilà, c'est... Et donc, on a cherché effectivement sur cette idée de dénombrer les artisans qui ont une réelle production régulière. Parce que sinon, tous les Valorciens sont artisans, ils savent tous travailler le bois, ils sont très doués avec leurs mains. Voilà. Donc en fait, c'était l'idée de faire ressortir des gens qui ont une production vraiment régulière. Et à l'époque, il y en avait malheureusement, puisque c'est des gens qui ne sont pas toujours très jeunes. Et qui, voilà, il y en avait 13 ou 14. 13, pardon. Et donc, on a dénombré ces 13 artisans, je les ai contactés sans trop savoir où j'allais aller parce que l'idée c'était de les rencontrer. Bon, je les connaissais pour la plupart, mais voilà, tout ça se fait dans une... On se connaît quoi.
Oui, il faut aller un peu plus loin.
Je veux dire, je viendrai bien vous voir et discuter, tout ça. Et voilà. Et donc, ils ont tous été d'accord, ils ont tous répondu présent. Et ça se passait assez simplement. On s'est rencontrés quasiment une demi-journée à chaque fois. C'était l'occasion de discuter dans l'atelier, enfin voilà, et de parler de tout, de l'artisanat, mais du reste aussi, de Valorcine. J'étais accompagné de Kim, ma fille, qui elle a posé sa caméra et a filmé tout ça, ce qui a fait effectivement un joli sujet qui a été monté ensuite.
Et Kim, moi, à qui vous avez donné aussi votre œil de photographe, puisqu'elle a monté alors, le petit labo.
Le but, c'était de faire un petit reportage, mais surtout un portrait, quoi. Je cherchais une autre visualisation que la photo de reportage dans l'atelier, qui pouvait être très bien, j'en ai fait par ailleurs, mais je cherchais à les mettre un peu en scène.
Il y a une mise en scène, oui.
C'est une mise en scène très succincte, mais déjà,
mais il y a une mise en scène.
Leur demander de s'asseoir sur un tabouret
et de vous regarder.
De poser, quoi, d'une certaine manière. Ça a été vraiment... J'avais beaucoup de doutes quant à la réalisation de ces images. Et en fait, ça s'est fait vraiment... c'était assez génial. En fait, ça se faisait dans la discussion. J'installais mon décor, c'est-à-dire un fond cyclo qui se mettait derrière. Presque sans qu'ils s'en aperçoivent, près d'une fenêtre dans l'atelier, j'essayais de ne pas éclairer pour garder cette intimité. Et de travailler qu'avec la lumière de l'atelier, c'est une belle lumière du jour qui est souvent concentrée dans une petite fenêtre. Voilà, c'était un peu l'idée, quoi.
Le résultat est magnifique, vraiment, et encore une fois plein d'émotions. Je vous laisse, ceux qui nous écoutent et celles qui nous écoutent, aller regarder ce travail-là sur instanté.com. On peut également vous suivre sur les réseaux sociaux, Thierry Bergerand.
Oui,
voilà,
oui,
vous relié, mettez souvent.
Enfin, tout est un peu
ou
relié,
venir vous rencontrer si voilà, s'il y a des
par
amoureux.
Le café comptoir, parce que tout ça est
voilà.
Très
lié à tout ça.
Venir au café comptoir d'ailleurs, mais juste.
Mais voilà, tout est lié. Et si il y a des amoureux ou amoureuses d'objets et d'histoire et de patrimoine, je vous invite à aller voir Thierry Bergerand donc au café comptoir à Valorcine. Merci beaucoup donc d'avoir fait le déplacement puisque vous avez passé le col pour venir nous voir. Merci beaucoup. Si vous avez raté le début de cette interview, elle sera très prochainement sur notre site globule.chamonix.radio.
dico più niente, non vedo più la gente e non fa niente.
Et on est toujours sur Rancard, Globule Radio 90.5 FM. Nous sommes chez Paolo et je crois que le programmateur musical s'est fait plaisir avec ce morceau Italove, que je précise d'ailleurs sur Facebook, vous n'entendez pas car il nous est interdit de passer des morceaux pour des raisons de droit d'auteur.
Et la grande question, c'était Emmanuel ou Emmanuele?
Ouais, c'est pour ça que je ne l'ai pas dit.
Donc il s'est faufilé, Kevin, et là, il s'est faufilé. Voilà, il s'est défilé et il n'a pas dit si c'était Emmanuele ou Emmanuel. Bon, bref.
Si tu nous écoutes, voilà, n'hésite pas à nous appeler.
J'allais dire en plus qu'on respectait les droits d'auteur et en fait, là, on est un peu pas trop en train de respecter cette pauvre autrice de musique, Emmanuele. Et j'imagine donc que notre prochaine invitée aussi, c'est de quoi nous parlons quand on parle de droits d'auteur, puisqu'elle a longtemps travaillé avec des troupes de théâtre et de marionnettes dans le sud-ouest, puis rien à voir à Amiens et à l'autre bout de la France, avant de débarquer finalement chez nous à Chamonix, un peu le triangle d'or de la France. Bonsoir Marie-Solène Lafont. Alors vous êtes arrivée, voilà, après ces longs voyages. Vous êtes arrivé il y a presque 2 ans maintenant à la mairie de Chamonix, au service culturel. C'est l'opportunité du travail qui vous a fait venir ici. Alors, est-ce que vous vous sentez bien dans la vallée? Déjà, un petit mot pour la vallée de Chamonix.
Oui, j'aime beaucoup la vallée de Chamonix.
Bon.
J'ai un très beau décor, donc c'est super.
Eh oui, c'est vrai que c'est pas mal hein, comme décor pour le bureau.
Oui.
Et ce travail aussi, est-ce qu'il vous plaît? Est-ce qu'il vous est-ce que... Ça vous a pas déçu, la culture à Chamonix?
Non, au contraire, il y a plein de choses à faire. Donc c'est ça qui est intéressant aussi d'être arrivé là. Il y a beaucoup de projets à venir et en cours. Donc,
C'est sûr que vous tombez quand même sur les bonnes années puisqu'il va y avoir une nouvelle salle de spectacle. Et ça, c'est pas tous les jours et tous les ans dans une ville. Et vous, vous occupez d'ailleurs de la programmation dans cette salle qui s'appelle Espace Michel Croc, qui va ouvrir, on croise les doigts, en décembre, très bientôt donc. Et dites-nous, ça a été un plaisir incroyable, non, de programmer une telle salle de spectacle avec autant de spectateurs et donc des gros artistes derrière?
Ah oui, forcément, c'est de beaux enjeux d'avoir une nouvelle salle et puis de proposer aussi de belles choses au public. On est très content que cette salle arrive parce qu'on a été mes collègues ont été pendant 10 ans en itinérance dans différents lieux sur Chamonix ou la vallée. Et c'est pas forcément toujours évident. Donc là, d'avoir un lieu plus fixe, ça va donner un peu de repos aux équipes et pouvoir proposer de très belles choses au public, de belles têtes d'affiche comme Ibrahim Malouf, Manu Katché, Suzanne, et des beaux spectacles.
Super.
Voilà, alors là on a les têtes d'affiche.
C'est une promesse ou pas ce que vous venez de dire?
Voilà, elle est venue équipée. Voilà. C'est dans le programme de la saison culturelle qu'on peut retrouver un peu partout à Chamonix et même tout simplement sur Internet avec un nouveau système de billetterie cette année.
Exactement. Donc voilà. On a tout renouvelé là pour cette nouvelle saison, donc un nouveau lieu, une nouvelle programmation, un nouveau système de billetterie qui marche assez bien. Les gens sont plutôt un engouement donc pour les spectacles, donc ça fait plaisir aussi de voir ça.
Et donc là vous avez parlé des grosses têtes d'affiche de cette salle. Mais il va y avoir quoi d'autre dans cet espace Michel Cros? Alors, on sait qu'il y a beaucoup de place. Je crois que c'est 500...
Alors, c'est 500 debout et c'est 287 assis.
Voilà, donc on est quand même sur une grosse salle. Qu'est-ce qu'on va avoir comme spectacle?
Il y aura pour tous les publics, donc adultes, enfants. Il y aura du théâtre, de la danse hip-hop, de la musique classique. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a du cirque aussi. Franchement, on a essayé de faire une programmation pour tout le monde.
Et qu'est-ce qu'il ne faut pas manquer? C'est un peu dur pour vous de dire ça.
Il ne faut rien manquer.
Bonne réponse.
Il faut défendre la culture et prendre des places de spectacle. Mais bon.
Il n'y a pas eu de culture, c'était un peu compliqué pour tout le monde. Donc là, c'est vrai qu'il y a de belles choses. Je ne sais pas ce que vous aimez. Franchement, je pense qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a du théâtre classique, il y a du théâtre contemporain, il y a de la danse classique, de la danse plus moderne comme le hip-hop. Il y a des formes hybrides.
Voilà, bah par exemple, là j'ouvre la page et on tombe le vendredi 14 janvier sur Dancing Cello. C'est une compagnie
Alors là,
italienne.
C'est une compagnie suisse. Ouais, en fait, il y a plusieurs artistes suisses, dont Francesco Bartoletti, qui est à l'origine du printemps musical à Chamonix. Donc là, il est professeur de violoncelle et il a créé un spectacle donc, qui mêle violoncelle, danse classique, et danse hip-hop. Donc ça, c'est une des formes hybrides qu'on peut retrouver dans la programmation.
Et après, comme vous disiez, pour revenir un peu sur les têtes d'affiche qu'il va y avoir, donc Ibrahim Malouf.
Oui.
Voilà, je ne sais pas si les gens, vous pouvez peut-être présenter l'artiste pour les gens qui le connaissent
pas. Ibrahim Malouf, c'est un des virtuoses de la trompette français, mais international aussi. Et là, il viendra avec... François Delporte, un guitariste, donc c'est en formation en duo. Voilà.
Et vous disiez, il y en a aussi pour les enfants, pour les jeunes publics.
Oui.
Bon, même si on a Suzanne qui vient quand même.
Oui, donc alors ça on va dire que ça va être pour un public plutôt jeune. Et après pour les très jeunes, on va dire, mais aussi pour les parents, parce que c'est Aldebert qui est déjà complet, malheureusement. Parce que,
voilà. On arrive trop tard. Pourtant, la billetterie a ouvert quand
Le 1er septembre.
Il faut se dépêcher alors pour réserver.
Oui, parce que pareil, Ibrahim Malouf, il ne reste plus beaucoup de place. Donc, si ça vous intéresse, foncez. Pareil pour Suzanne et Manu Katché. Donc, voilà, pour les têtes d'affiche, il faut aller vite. Mais avec l'abonnement, ça permet aussi de pouvoir prendre une tête d'affiche et faire de la découverte, aller choisir d'autres spectacles.
Voilà, alors est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus pour les gens qui ne connaissent pas forcément le fonctionnement? Donc, on peut avoir plusieurs places et là, on est abonné, en fait.
Oui, le système de billetterie, d'abonnement, il commence à 4 spectacles. Donc, on choisit n'importe quel spectacle, enfin, 4 spectacles, n'importe lesquels. Et à partir de là, on est abonné. Et ensuite, pendant l'année, si on souhaite reprendre d'autres spectacles, on bénéficie du tarif abonné à partir de 4 spectacles achetés.
Et donc tout ça se passe sur le site
de la billetterie que vous retrouvez sur le site de la mairie de Chamonix.
Voilà.
Après, si vous voulez, vous pouvez aussi passer
.fr. .fr, pardon.
Grave. Sinon, vous pouvez passer au bureau, on est au-dessus de l'office du tourisme.
Merci beaucoup Marie-Solène Lafond. Ne bougez pas, on revient tout de suite avec vous pour parler des autres événements, puisque là on a beaucoup parlé de la nouvelle salle, mais il se passe plein de choses dans la vallée aussi cette année, pour les amoureux de la culture et puis ceux qui ont envie de se vider la tête après toutes ces années un peu à rester chez soi sur son canapé. C'est pas mal, il faut y aller, il faut soutenir la culture. Donc un peu de culture sur Globule Radio, on en met tout le temps, c'est de la musique et c'est de la dub sur Globule Radio 90.5 FM.
Στεφάνι, βυσάνιο τίσα. Σε φίλησα και αρρώστησα και το γιατρό δε φώναξα.
Toujours en compagnie de Marie-Solène Lafont sur le 90.5 FM, Globule Radio qui fait son rancard du jeudi soir chez Paolo, rue Ravanel-le-Rouge. Venez nous voir et puis surtout venez voir Olivier Rouquier tout à l'heure, qui est artiste-interprète de la Vallée de Chamonix, qui joue à 19h. Voilà, on parle de culture d'ailleurs avec Marie-Solène Lafont, qui, je le précise, travaille au service culturel de la mairie de Chamonix. Ça doit être génial, comme on disait un peu en micro, de faire ce travail-là et de faire venir des si grosses stars comme ça à Chamonix. Est-ce que c'est facile d'ailleurs?
On a plusieurs contraintes, hein, mais on a. Mais oui, alors le métier est super. Après, surtout les contraintes qu'on peut avoir, ça va être des contraintes calendaires. Donc, savoir si l'artiste est disponible à la date à laquelle on pense. Et voilà, après, souvent ça se passe bien quand même. Donc.
En tout cas, ils sont là, ils sont dans la programmation. Exactement. Je le remontre encore pour les gens qui nous regardent sur Facebook. N'hésitez pas à aller regarder sur le site de la mairie de Chamonix. Il y a toute la programmation de toute l'année. On peut prendre les places. Et d'ailleurs, il y a des spectacles qui sont pleins déjà. Donc, allez-y. Et puis, à Chamonix, c'est vrai que ville du ski, de la glisse, on entend que ça tourne beaucoup autour de ça, que les budgets vont beaucoup vers ça. Voilà, c'est une rengaine qu'on entend ici. Est-ce que vous, maintenant qui êtes à l'intérieur du service culturel, est-ce que c'est vrai ça, ou j'ai l'impression que ça bouge et que...
Non, mais ça bouge beaucoup. La preuve en est avec la salle qui va arriver et puis la programmation. Et puis je pense que à la mairie, j'imagine qu'ils ont envie qu'il y ait de la culture ici, comme partout ailleurs, en fait. Donc, peut-être qu'avant, on était un peu moins visible, parce qu'en fait, le service culturel existe depuis longtemps, mais maintenant, voilà, on a une belle programmation, un beau...
Une belle communication.
Voilà, une belle communication, donc voilà, on est plus visible.
Une artiste, donc, comme on disait, qui est bretonne, qui a fait cette magnifique glace montagne.
Exactement.
Très beau visuel pour la saison culturelle. Vous aidez aussi, il faut qu'on en parle, de tous ces festivals qui perdurent dans le temps, malgré voilà, les crises sanitaires et puis les baisses, etc., d'aide aux festivals. Donc là, on a le festival des petits asticots qui arrive assez rapidement, le mois prochain d'ailleurs. Oui. Je tiens à le dire, je fais une petite pub pour Globule Radio qui donne des ateliers pour les enfants. On participe aussi encore à ce festival cette année, donc c'est pendant les vacances de la Toussaint.
Exactement, première semaine de des vacances de la Toussaint, et ce sera la 20e édition cette année. Et nous, on ouvrira, parce que c'est en collaboration avec Salanche, et du coup, Cultural. Et du coup, nous, on inaugure le festival cette année avec Concerto pour deux clowns à la salle Olka. Donc, c'est du clown pour toute la famille. Ce sera aux Ouches, en effet. Et du coup, le principe de ce festival, c'est d'aller de Serveuse à Valorcine et proposer des spectacles à partir de 1 an jusqu'à... un peu plus âgé, mais voilà, c'est essentiellement dédié aux enfants.
Et c'est la combienième d'édition ?
C'est la 20e.
20e, donc chapeau à toute l'équipe des petits asticots, parce que pour faire tenir un festival sur autant d'années...
Oui, et puis c'est sur 10 communes, je ne sais pas combien exactement de représentations et de compagnies, mais il y en a au moins une petite quinzaine. Quoi,
et il y a des gens de la France entière qui viennent
exactement.
Qui viennent
même
assister.
Des Suisses, voilà.
Oui,
voilà.
Et nos amis les Suisses. Et une question un peu folle, Marie-Solène Lafont, vous qui êtes au service culturel de la ville de Chamonix, si vous deviez inviter un ou une artiste à Chamonix comme ça, ce serait qui?
Pardon, je sais pas, il y a plein de gens
que j'aimerais bien faire venir ici, mais ça dépend dans quel domaine, en fait. Il faudrait choisir.
Allez-y, entre... alors, peut-être vous qui venez un peu du théâtre, du milieu des marionnettes aussi, peut-être qu'on connaît un peu moins bien.
Je vais vous parler d'artistes que vous connaissez pas, mais si vous
alors,
voulez, moi, j'aimerais beaucoup faire venir en marionnette une compagnie qui s'appelle Plexus Polaire. C'est fait de la marionnette géante. Ils sont c'est une compagnie franco-norvégienne. C'est vraiment très très bien. C'est particulier parce que c'est de la marionnette géante.
Donc ça se passe en ville ?
Non, ça se passe en salle.
En salle ?
Ouais, ouais. C'est très très beau. Donc ça, c'est vraiment une des compagnies que j'aime d'abord.
Bon, si jamais on vous entend.
Non, sinon, j'aime un Gaël Faye ou un Ben Mazuet, j'aime bien.
Alors là, on retourne un peu
sur la musique.
Franchement, c'est faisable.
Mais peut-être.
Dans le nouvel espace. L'espace donc, qui ouvrira Place du Mont-Blanc. C'est vrai qu'on a reçu Juliette Martinez cet été et j'ai eu des retours. On ne disait même pas où c'était. Ça va être à côté de la MJC.
Exactement.
Sous les coupoles, là, vous voyez, il y a des travaux en ce moment.
C'est là où il y a les travaux.
Mais écoutez, merci beaucoup, Marie-Solène Lafont. C'est grâce à ce genre de personnes hein, comme vous qui œuvrez dans l'ombre. On va se régaler toute l'année en spectacle. On le redit, demain, ouverture de la saison Place
samedi.
Du Mont-Blanc.
Samedi,
ah oui, demain, oui. On est jeudi, pardon, excusez-moi. C'est samedi, pour que tout le monde puisse y aller, puisque c'est le week-end. C'est à partir de 15h30, avec des spectacles. Et puis, la billetterie pour la saison culturelle, on le redit encore. Tous les spectacles de l'année, il faut réserver ses places sur Internet ou en mairie, j'imagine, pour les gens qui n'ont pas accès à Internet.
Puis même, vous avez des coupons à la fin du programme. Vous pouvez remplir votre coupon et l'amener au service.
Voilà. Donc, c'est bien fait.
C'est super bien
Beau
fait.
Beau travail.
Et je vous invite vraiment à être là ce week-end pour voir les trois spectacles de 15h30 à 18h.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci.
Je pense qu'on peut démarrer la paix. Et vous l'aurez, votre terrasse.
Entrepreneur, artiste,
artisan,
sportif,
organisateur de concerts
et d'événements.
Ils prennent la parole au micro de Globule.
Faut se sortir d'ici, hein, Sergent. Pourquoi ? T'as un rancard ?
Rancard, c'est la tournée d'été des terrasses de Chamonix.
Rancard, à suivre aussi sur le 90.5 et sur nos réseaux sociaux. Rancard,
la tournée d'été des terrasses de Chamonix.
En partenariat avec Europcar et le département de la Haute-Savoie.
Rancard !
T'as un rancard ?
Et tout de suite, Jean-Claude, que vous voyez sur notre live Facebook, qui a plein... deux casquettes chez Globule. Bon, il n'a pas la casquette sur la tête, mais bon, on va vous le dire, c'est sa casquette de programmateur musical. Il vient nous présenter une petite pépite italienne, c'est son truc. Pourquoi ? Parce qu'on est chez Paolo, en fait, jusqu'à la fin du mois. On revient jeudi prochain, jeudi 30 septembre. Et ça l'inspire, en fait, JC. Et JC, qu'est-ce que tu nous as trouvé pour ce jeudi ?
Alors là, je parle d'un groupe qui s'appelle Il Quadro di Troisi.
C'est donc, toujours aussi dur l'italien.
Je voulais le secours de Paolo pour éviter de m'enfoncer
Paolo.
Dans le ridicule, mais il s'est absenté quelques instants.
Voilà.
Donc je m'excuse auprès de nos auditeurs italiens. Ça va être un peu catastrophique au niveau de la prononciation des noms, surtout qu'il y en a beaucoup là dans ma chronique.
Il faut appeler Franca.
Donc ce groupe a sorti un album sous ce nom en 2020 et je l'avais trouvé intéressant en tant qu'OVNI, album et groupe répertorié dans les nouveautés de l'année dernière, mais passé un petit peu inaperçu, il faut bien le dire. En fait, c'est un duo italien, Il Quadro di Troisi, avec Andrea Noce, connu aussi sous le pseudonyme de Eva Guest. C'est plus rapide,
plus facile.
Peut-être. C'est une chanteuse et elle manie les synthétiseurs. Son camp de base est désormais à Berlin. Bon, comme quoi on peut passer de l'Italie à Berlin, pourquoi pas. Et puis Donato Scarapuzzi, connu aussi sous le pseudonyme de Donato Dozzi, pour les spécialistes.
Et oui.
C'est un DJ italien et producteur qui a collaboré quand même dans plus d'une dizaine de projets et donc il n'en est pas à son coup d'essai. Voilà, alors on décortique un peu les tenants de cet album. Le nom du groupe fait référence au célèbre et regretté acteur-réalisateur Massimo Troisi, connu notamment pour avoir joué dans les films d'Ettore Scola. Dans les oreilles et le souvenir des Italiens, c'est certes pas un inconnu.
Moi, j'ai que les oreilles.
Paolo nous le confirme. Voilà. Et voilà. Et donc, le label Raster Media, qui a produit cet album, se considère quant à lui comme une plateforme artistique indépendante qui souhaite promouvoir des approches novatrices dans les musiques électroniques. Effectivement, on est dans l'électronique avec ce groupe. Le fait est qu'il accueille des artistes de toute nationalité et c'est bien intéressant parce que les Italiens y ont leur place. Alors justement, je suis allé voir ce que dit le label pour promouvoir cet album. Deux points, ouvrez les guillemets.
Allons-y.
Le disque s'inspire de la tradition italo-disco et synthé-pop,
corroborée par la contribution d'artistes tels que le légendaire cofondateur de Twilight Music, Pietro Michioni.
Ah, bon. Twilight, ça, voilà. Ça me parle.
Alors, avec les vampires.
Alors, synthé pop, je veux bien, mais Italo disco, ça me semble un peu moins évident. Vous écouterez tout à l'heure. Voilà, et Pietro Michioni dans tout ça, il est connu et reconnu comme disc-jockey, compositeur, producteur italien. Oui, c'est une référence notable côté italien, et peut-être j'y reviendrai dans la chronique de la semaine prochaine. Alors voilà, je vous laisse écouter Il Guidizio par Il Quadro di Troisi.
Et d'une troisième.
Une atmosphère étrange, un brin bucolique qui s'accorde bien avec ce début d'automne, finalement, n'est-il pas ?
Il l'est.
Trovo dove già
c'est l'agenda de la semaine. Alors, pour cette semaine, ce que j'ai dégoté, c'est que le vendredi 24 septembre, au Plan B, on a une soirée jeu autour de l'univers du cinéma. C'est une animation qui se déroule pendant le dîner. Et c'est un jeu qui est articulé en 4 parties. Donc, citation connue, quiz, blind test et les enchères pour finir. Je sais pas ce que c'est. Mais le thème, donc, c'est le jeu et le cinéma. Et les gagnants remportent une réduction de 20% sur leur note finale.
Donc ça, c'est demain, Kevin, de 20h à 22h. Et donc, c'est au Plan B à Chamonix-Sud. Ensuite, on a la patinoire à Chamonix qui fait une journée porte ouverte réservée aux filles. C'est ce samedi de 12h30 à 14h. Il faut venir avec des gants et une tenue de sport. Et le matériel de hockey, par contre, sera prêté par le club.
On rappelle aussi, donc, du coup, l'ouverture de la saison culturelle ce samedi.
Il faut y aller.
Il faut absolument y aller sur la place du Mont-Blanc. C'est gratuit, donc venez nombreux.
C'est à partir de 15h30 samedi.
Exactement.
Et ensuite, il y a une invitation à l'avant-première film Henri, Anamorphose, et à la mairie de Saint-Gervais. Pardon. C'est eux qui ont le plaisir de vous inviter à ce film réalisé par Sarah Dorival et Clément Dorival.
Exactement, et la projection sera suivie d'un débat en présence de Henri de Labrosse, du coup le protagoniste du film, et Sarah et Clément Dorival, les réalisateurs, comme on l'a dit tout à l'heure. L'accès est évidemment libre et c'est au Théâtre Montjoie à 19h à Saint-Gervais. Et c'est tout ce que j'ai pour l'agenda de la semaine.
Et c'est donc demain. Et donc, jingle, globule, radio, rancard chez Paolo.
To be born free.
Et il est 19h passé de 2 minutes sur Globule Radio. Vous écoutez bien le 90.5 FM, radio locale de la vallée de Chamonix. Et c'est la fin de notre rencard chez Paolo ce jeudi 23 septembre. Merci à toute l'équipe de Globule, comme d'habitude, toujours présente, toujours sur le pont. Kirstine, JC qui était avec nous aussi, et puis Kim qui était à la vidéo. Merci à Paolo et à Franca. On réinvestit d'ailleurs sa terrasse à Paolo le jeudi 30 septembre, c'est jeudi prochain, avec l'association Zom Connexion qui envoie du matériel de sport au Pakistan, les pompiers de Chamonix. La voisine de chez Paolo, c'est Marta. C'est elle qui tient le cha-cha-cha au bout de la rue. Elle nous parlera des meilleurs vins italiens. Et puis l'artiste aussi, Ankara, qui nous viendra de Servoz.
Merci aussi aux partenaires, merci aux fidèles auditeurs et merci aux invités. Donc Thierry Bergeran qui fait du design de marque et qui est scénographe à 16 heures perdues. C'est lui qui a réalisé l'expo à l'usine Simon dont on parlait tout à l'heure. Marie-Solène Lafont du service culturel de la ville de Cham, Fred Bernard, guide photographe qui, bah, que vous retrouverez dès demain soir pour le vernissage de l'expo 2050 au Café Galerie des Aiguilles de Cham. Et enfin, merci à la galerie de street art d'exister.
Et de porter ce nouveau projet.
Exactement,
c'est,
la
métagalerie que vous retrouvez donc juste à côté de la pharmacie de l'Aiguille du Midi. C'est à Chamonix Sud, à aller voir d'urgence. C'est vraiment super ce qu'ils proposent. Il y a plein d'objets en vitrine.
On se retrouve donc jeudi prochain, toujours chez Paolo. Merci, merci pour ton accueil d'ailleurs, Paolo, et tes bonnes.
Alors, c'est pas des pizzas qu'il fait, c'est des piadizza qu'il fait. Et je vous conseille de venir en manger une toute chaude là qui sort du four. Il fait tout au four d'ailleurs ici chez Paolo. Parce que juste à côté de nous, il y a Olivier Rouquier qui est en train de s'installer. Olivier Rouquier, qui est un artiste, interprète, compositeur. Qui a sorti un dernier album il n'y a pas si longtemps que ça. Qui sera sur la terrasse de chez Paolo. Jusqu'à 20h, je pense, jusqu'à que mort s'en suive. Non,
minuit, 1h, je crois, c'est ce qu'on m'a dit. Non, je ne le dis pas.
En tout cas, venez chez Paolo et écoutez Olivier Rouquier. Nous, on vous souhaite une bonne soirée sur le 90.5 FM avec toujours de la bonne musique.